Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le point sur la mobilisation des Gilets jaunes avec un manifestant grièvement blessé à Paris dans des circonstances qui demandent à être éclaircies. Précision dans un instant de Lucas Caltritti. Un détour par Rome où 200 000 personnes ont étrillé la politique du gouvernement italien, gouvernement hors sol, si l'on se fie au slogan. Bertrand Galichet évoquera l'implication controversée de la France dans les affaires tchadiennes après des frappes aériennes contre une colonne de pick-up d'opposants au président Idriss Déby. Et puis nous rendrons hommage au grand dessinateur, au grand illustrateur et insaisissable Tommy Ungerer, mort la nuit dernière à l'âge de 87 ans. En ce 13e samedi consécutif de contestation, place publique, affluence à la baisse et morcellement des mobilisations de toutes sortes ont été ciblées par les gilets jaunes. Centres commerciaux, zones industrielles, péages d'autoroute, périphériques, lieux de pouvoir, sans oublier les désormais traditionnels ronds-points occupés. Bonsoir Lucas Caltritti.
Bonsoir.
Lucas, cette journée restera marquée par les blessures subies par un manifestant à Paris, de graves blessures à une main.
Oui, sa main a vraisemblablement été arrachée. Chez les images extrêmement choquantes de la blessure circulent sur les réseaux sociaux. On y voit l'homme d'une trentaine d'années, blême, adossé à un mur devant l'Assemblée nationale, sa main droite en lambeaux. Difficile de dire si elle est arrachée, même les témoins de cette scène n'arrivent pas à l'affirmer. Stéphanie Roy, journaliste indépendante qui a filmé la blessure de ce gilet jaune.
Alors moi j'ai vu la main arrachée, c'est David Dufresne qui a publié l'image sur son compte Twitter et on voit bien la main qui est arrachée. Après c'est vrai que ça fait une sorte de demi-lune je dirais. Au bout du bras, ça fait une demi-lune, donc c'est peut-être, maintenant que vous le dites, le pouce et le petit doigt. Moi, il me semblait que la main était totalement arrachée. Il faudrait peut-être que je revoie la photo en grandissant. J'avoue que c'est une image très dure. Donc, même en filmant, pour être honnête, je regardais très peu ma caméra. J'essayais de regarder un petit peu ailleurs. C'est vraiment une image très dure à voir.
La préfecture de police indique, elle, ce soir, que la victime a eu 4 doigts arrachés, a été évacuée par les pompiers, puis transportée à l'hôpital. La cause de la blessure n'est pas encore définie. Il y a 2 thèses qui sont avancées pour l'heure. Le manifestant aurait soit escaladé les grilles du palais Bourbon et aurait alors reçu une grenade de désencerclement sur lui, ou bien il aurait ramassé une grenade pour la renvoyer sur les forces de l'ordre. Elle lui aurait alors explosé dans la main.
Lucas, quelle forme de mobilisation à travers le pays? Quelle forme relevée ce soir?
Écoutez, diverses manifestations ont eu lieu, comme chaque samedi, désormais un peu partout en France. Et ces mobilisations se sont passées dans l'ensemble, il faut le rappeler, dans un calme relatif. C'est à Paris, essentiellement, que les tensions se concentrent. Paris, où 21 personnes ont été placées en garde à vue, selon une source judiciaire.
Merci à vous, Lucas Scaltritti. Plusieurs dizaines de gilets jaunes ambitionnaient de se positionner à Vintimille pour tenter de bloquer l'autoroute côté italien. Ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre au péage de la Turbie et ont dû emprunter la route de la côte avant de gagner Menton en milieu d'après-midi. De l'autre côté de la frontière, justement, plus précisément à Rome, une manifestation de gilets jaunes était interdite en raison d'un risque de débordement. Rome, qui a toutefois connu la plus forte mobilisation syndicale enregistrée depuis la fin de l'année 2014 et la réforme du travail engagée par le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi. Des centaines de milliers, 200 000 personnes, relevons-nous ce soir, ont convergé vers la capitale italienne à l'appel des principaux syndicats. Les mots d'ordre soulignent le manque d'ambition de la politique du gouvernement populiste. Rome, Antonino Gallofaro.
Que le gouvernement sorte des réseaux sociaux et entre dans la réalité du travail. Avec ce slogan, tous les syndicats de la péninsule ont fait front commun aujourd'hui pour protester contre les réformes de Luigi Di Maio et de Matteo Salvini, les deux hommes forts de l'exécutif italien, très actifs sur internet pour parler toujours directement à leurs électeurs à coups de selfies ou de vidéos. Les représentants des travailleurs s'en sont pris d'abord au revenu de citoyenneté, le revenu universel voté par la majorité. Avec sarcasme, ils ont dénoncé l'emploi de 6000 précaires voulus par la réforme dans le but d'aider les plus pauvres à trouver un emploi précaire. Et puis inquiet d'une économie en récession technique au taux de croissance le plus faible d'Europe, les syndicats ont appelé à débloquer les chantiers pour favoriser l'emploi. Ils font référence ici notamment à la ligne Lyon-Turin bloquée par le mouvement 5 étoiles et objet de discorde avec le partenaire d'extrême droite. Ce gouvernement avait promis d'être celui du changement, les travailleurs lui ont répondu n'en voir encore aucun.
Les forces démocratiques syriennes ont lancé il y a une heure une offensive sur la dernière enclave contrôlée par les djihadistes de l'organisation État islamique, une partie de la localité de Baghouz, sur la rive est de l'Euphrate, localité qu'ils assiègent depuis des semaines. Ils sont retranchés des centaines de djihadistes et des civils qui, selon les FDS, sont utilisés comme des boucliers humains. Les autorités tchadiennes prétendent aujourd'hui avoir capturé, je cite, plus de 250 terroristes, fin de citation, après qu'une colonne d'opposants, de rebelles, si l'on emprunte au lexique officiel, a été bombardée. Plusieurs frappes de Mirage 2000 à deux reprises, lundi et mercredi dernier, frappes françaises. L'Union des forces de la résistance qui combat Idriss Déby a d'ailleurs reconnu des pertes à son entrée sur le territoire tchadien venant de Libye. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Mathieu.
Bertrand, ce n'est pas la première fois que ce groupe armé a affaire à la France.
La France a volé au secours de son allié tchadien à plusieurs reprises en vertu d'un accord de défense liant les deux États et c'est donc à la demande d'Idriss Déby que les Mirage 2000 français ont bombardé à plusieurs reprises cette semaine des colonnes de pick-up de l'Union des forces de la résistance venues de Libye. L'UFR dénonce des frappes illégales. Ce même groupe armé avait déjà été stoppé en 2008 aux portes du palais présidentiel à N'Djamena avec l'appui de la France pour protéger Idriss Déby, lui-même arrivé au pouvoir par les armes. Alors, qui sont ces rebelles présentés par le Tchad comme des terroristes, voire des trafiquants de drogue? Eh bien, ce sont des opposants tchadiens basés en Libye et au Soudan et qui projettent de renverser Idriss Déby, bien qu'ils appartiennent à la même ethnie. Une rébellion dirigée par un neveu du chef de l'État tchadien. Selon des spécialistes, les bases arrières de l'Union des forces de la résistance en territoire libyen seraient actuellement menacées par une opération militaire lancée à l'initiative du général Haftar, l'homme fort de la partie est de la Libye. La France n'entend pas laisser les rebelles déstabiliser le régime d'Idriss Déby, dont elle a besoin pour lutter contre le terrorisme au Sahel, quitte à fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme régulièrement dénoncées par les ONG.
Merci à vous, Bertrand Galichet. Il est 18h06, vous écoutez le journal de France Culture. La vie de Tommy Ungerer, qui vient de mourir à l'âge de 87 ans, tire des transversales dans les manuels d'histoire. L'annexion de l'Alsace à l'Allemagne, les horreurs de la guerre, les méharés en Algérie, la ségrégation raciale aux États-Unis où il croqua le ridicule des bourgeois new-yorkais, des bourgeois qu'il choqua en décrivant en dessin la mécanisation de la sexualité. L'illustrateur de talent, le dessinateur subversif, laisse une œuvre pléthorique et des ouvrages cultes. Alice Serrano.
Trois chapeaux noirs en forme de cloche, trois capes noires et des yeux qui ressortent sur un fond bleu. Ces trois silhouettes vous disent peut-être quelque chose. Ce sont celles des trois brigands, l'un des grands succès de Tommy Ungerer. Un livre pour enfants qui fait partie des 70 ouvrages que l'auteur a illustrés. Le trait est simple, souple, reconnaissable en un clin d'œil. L'homme quitte son Alsace natale après la guerre pour voyager et débarque en 1956 aux États-Unis avec $60 en poche et quelques dessins sous le bras. Le succès est immédiat. Ses affiches publicitaire. Ses dessins satiriques et érotiques plaisent, comme cette statue de la liberté aux formes généreuses, qui pose Alanguy, vêtue d'une simple culotte aux couleurs du drapeau américain, et cette phrase « Join the free and fat society », rejoignez la société libre et grosse. Et si cet illustrateur de génie a très peu vécu en France, il n'en oublie pas pour autant son Alsace natale. Il donne très tôt des dessins à la ville de Strasbourg qui crée un musée en son honneur, réalise même un monument pour la ville, l'aqueduc de Janus. L'œuvre de Ungerer est riche de près de 40 000 dessins.
Le 10 janvier 2012, Tommy Ungerer se confie à Martin Kenéen sur notre antenne dans l'émission À voix nue. Tommy Ungerer, qui aimait tant être au chevet de l'enfance.
Les premiers livres, c'est toujours, comme je disais, chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Et c'est pour ça que tous mes premiers livres, c'est en fond une réhabilitation d'animaux qui sont normalement détestés. J'ai un livre sur un rat. J'ai un livre sur une pieuvre, sur un serpent, sur un vautour, sur une chauve-souris, etc. Mais toujours avec des conneries. Et finalement, ils sont triomphants parce que justement, ils peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas. Alors là aussi, c'était dans un sens de réhabilitation. Mais je veux dire que, dans le fond, à la base, pour démarrer avec le livre d'enfant, c'est un peu quand même égoïste ou égotiste, si vous voulez. Je fais des livres qui m'auraient plu quand j'étais petit. Et alors, je suis vraiment toujours été en forte contradiction avec les pédagogues qui disent qu'il ne faut pas traumatiser les enfants, etc. Alors que moi, dans mon livre, il y a toujours des éléments de peur. Mais les enfants, en fin de compte, n'ont jamais peur. Même dans les trois brigands, tous les gens foutent le camp, mais quand les trois brigands tombent tous sur la petite fille, là, dans son truc, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. On sous-estime complètement les enfants. D'abord, on n'utilise pas un vocabulaire assez grand, surtout aux États-Unis, n'est-ce pas? En principe, on est limité par un certain nombre de vocabulaire. Alors moi, mais dans les trois brigands, je ne dis pas un fusil, je dis un tromblon. C'est quand même formidable pour un enfant, un tromblon.
Et voilà, je vous invite à consulter notre site franceculture.fr où sont rassemblées les émissions auxquelles Tommy Ungerer a participé. Le temps de demain dimanche, marqué par un renforcement du vent sur 18 départements du Nord-Est. Le reste du pays sera sous les averses de pluie. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique Alex Dang.